Question de fond.
Une série proposée par Regards Protestants.
Catherine Choc-Lucas, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christian Bacuet.
Bonjour.
Vous êtes tous deux membres du groupe des Dombes. Et il semble que les évangéliques sont maintenant inclus dans le groupe des Dombes. Alors c'est du déjà là ou du pas encore?
Le groupe des Dombes étant donc un groupe qui existe depuis 1937, qui est composé de catholiques et de protestants de type luthéro-réformé depuis donc très très longtemps et à parité, donc on est 40 moitié-moitié, quoi, hein, et qui essaie de rester dans ce champ-là pour mieux discuter de manière bilatérale, mais qui en même temps s'ouvre à la réalité du monde. Et donc la réalité du monde, il n'y a pas que des protestants classiques et des catholiques, et notamment le monde évangélique est très très grand. Donc voilà, on s'ouvre à la fois en prenant en compte cette belle réalité de la diversité du christianisme et aussi en intégrant du coup de la connaissance, du contact, du savoir. Il y a en particulier une membre du groupe des Dombes qui est d'une église évangélique, et donc c'est pas rien, ça fait cette présence-là n'est pas que théorique, elle est manifestée humainement. Anne-Catherine Graber, qui est donc mennonite et très engagée dans l'œcuménisme au niveau national, mondial, et c'est une richesse pour notre groupe.
Elle est professeure au Centre Sèvres, une faculté jésuite à Paris. Et elle est professeure intégrée, ce qui est très rare pour une faculté catholique. Donc c'est aussi une avancée œcuménique importante et nous sommes très reconnaissants de cela.
Et de ce fait, il y a dans le tout dernier livre du groupe des Dombes, pour la catholicité des églises de toutes les nations, il y a un apport évangélique, il y a le point qui est fait sur les dialogues catholiques évangéliques, réformés évangéliques. C'est tout nouveau, ça.
Oui, dans les ouvrages précédents du groupe des Dombes, il n'y avait pas cette mise au point des résultats d'autres dialogues œcuméniques. Donc là, le groupe des Dombes rentre aussi dans une approche multilatérale et essaye de prendre en compte, dans la mesure du possible, des acquis, des dialogues entre des confessions différentes.
Oui, parce que c'est vraiment la richesse du mouvement œcuménique actuellement, au sens large, c'est que beaucoup, beaucoup d'églises sont dedans, en dialogue les unes avec les autres, etc. Et c'est à la fois, on pourrait dire, il y a des grosses tendances orthodoxes, catholiques, protestants, et à l'intérieur des protestants, luthéro-réformés, évangéliques, mais tout ça discute, se croise beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait, c'est ça qui est important. Et aucun groupe ne peut s'isoler et faire comme s'il était le seul à faire de l'œcuménisme. Et donc, pour le groupe des Dombes, intégrer cette dimension-là, c'est à la fois normal, finalement, et puis très enrichissant, en fait. Hein. Et dans le livre, les résultats de ces dialogues, qui sont en cours, hein, bien sûr, hein, montrent combien, en fait, toutes ces questions traversent toutes les églises. Et le fait de les discuter ensemble donne à chacune de mieux se connaître soi-même et de s'ouvrir aux autres. Et ça, c'est très, très important, quoi.
Oui, parce que ce dernier livre du groupe des Dombes parle des notes d'église, les caractéristiques d'une église en référence au concile de Nicée. Alors, avant de venir dans cette perspective d'entrer dans le livre, un dernier mot peut-être sur le groupe des Dombes. Il se réunit plus à l'abbaye des Dombes, il se réunit dans une autre abbaye où c'est très fraternel et très amical. Pouvez-vous nous décrire une journée de rencontre du groupe des Dombes?
Alors, donc c'est à l'abbaye de Pradines, près de Roanne, que donc ce sont des bénédictines qui nous accueillent. C'est très important pour le groupe des Dombes d'être accueilli par une communauté de type monastique, c'est-à-dire dont la prière est quelque chose de central, et donc porté par la prière de cette communauté. Donc, une journée type, on pourrait dire, on participe donc à quelques offices de la communauté. On a nos propres moments de culte, de messe, de prière, pour démarrer chaque journée. Et puis, on a du temps de travail collégial, donc on est 40, donc une pièce, on est tous autour de la pièce, et puis voilà, c'est modéré par deux membres du groupe, et puis voilà, on prend la parole, et puis les échanges se construisent comme cela. Donc la prière, l'échange théologique, et puis c'est porté par une grande amitié, une grande confiance, qui se vit beaucoup aussi dans les repas, les temps libres, les cookies que Catherine prépare. Voilà, la vie
oui,
se construit comme ça, sur ces trois piliers. Ouais.
Voilà, le temps de faire la vaisselle ensemble aussi, c'est important. Le groupe vit ensemble.
Il y a un grand acquis, Catherine Choc-Lucas, dans ce livre.
Oui.
C'est les catholiques qui rédigent, qui écrivent. Cette fois, les catholiques et les réformés, nous avons la conviction que nous formons une seule église. C'est votre conviction ?
Je partage cette conviction du groupe, oui. Nous avons aussi apporté la précision, bien qu'en communion imparfaite, mais le fait de travailler ensemble, aussi d'exprimer ce désir de former une seule Église, cela nous motive pour continuer à avancer ensemble. C'est aussi en prenant en compte tout le cheminement œcuménique que l'Église catholique a effectué en son sein depuis le Concile Vatican II, c'est ça qui nous permet aussi d'exprimer cette conviction.
Et vous affirmez également quelque chose de fort théologiquement, que une seule Église est donnée.
Oui.
Et que le travail de communion est la tâche à réaliser. Alors vous écrivez entre don et tâche pour l'avenir.
Je pense d'abord une tâche pour l'avenir, c'est de continuer à rester ensemble, de se donner le moyen de poursuivre cette vie et ce travail théologique en commun. Nous voyons que ce n'est pas toujours donné et je pense que nous devons être aussi reconnaissants dans l'action de grâce pour cette vie qui le groupe fêtera ses 90 ans en 2027. Donc d'abord s'assurer que ce travail puisse se continuer pour le groupe, mais aussi se donner les moyens de partager ce que nous faisons ensemble le plus largement possible. Et c'est pour cela que notre livre est important. Ça nous permet de communiquer et de continuer à interpeller nos églises sur ce chemin de l'unité chrétienne.
C'est à la fois un don parce que l'unité, elle est en Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, c'est un don qui nous fait de cette unité, c'est pas nous qui la construisons. Et c'est en même temps une tâche parce que, de manière visible dans le monde, les chrétiens ou les églises ont souvent été divisées, elles le sont encore en partie. Donc c'est une tâche de contribuer à ce que cette unité donnée en Christ soit vraiment vécue. Donc on pourrait dire la tâche du groupe des dons, mais de, à la fois modestement et en profondeur aussi, travailler à ça pour que l'église unis en Christ, soit vraiment unis dans ses formes visibles, pas que pour le bien-être des membres de l'Église, mais pour que l'humanité, qui elle-même aussi est déchirée tellement et de division et de souffrance, que les Églises puissent être témoins de cette unité que Dieu veut, pas que pour les Églises, mais pour l'ensemble de l'humanité et de sa création. C'est une manière de, modestement on pourrait dire, mais profondément encore une fois, de travailler à être témoin du royaume de Dieu. Tout modestement.
Alors c'est modeste, mais c'est transgressif et c'est prophétique aussi, compte tenu des crises mondiales, d'avoir cette visée, la Terre tout entière. Mais vous écrivez par contre dans le livre, on ne vise pas une fédération d'églises, mais la pleine communion des églises dans l'unique Église du Christ. Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que cette unidiversité dont il est question dans le livre ? Comment elle se concrétise à part dans le groupe des Dombes ?
Donc le gros défi des églises, c'est d'être témoin de Jésus-Christ, de vivre et de partager l'Évangile. Et la triste réalité, c'est que souvent chacun le fait dans son domaine, sans trop être avec les autres. Donc le défi, c'est de vivre ça comme une communion. Quand on dit fédération d'églises, on pourrait penser que c'est qu'une affaire institutionnelle. C'est important, bien sûr, hein, de se connaître, de cheminer ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble, etc. Mais c'est beaucoup plus profond. Donc le mot communion, beaucoup plus que fédération, exprime quelque chose d'une dimension spirituelle aussi. Donc en étant en communion les uns avec les autres, on vit plus profondément la communion qu'on a en Jésus-Christ. Laquelle communion en Jésus-Christ est celle qui irrigue la communion entre nous. Donc c'est ça l'idée d'être une seule et même Église. Pas un montage technique, mais une vraie dimension spirituelle vécue.
Oui. Nous donnons d'ailleurs dans le livre l'exemple de prier pour les responsables des églises. Je dirais qu'on pourrait même inviter à prier localement pour les pasteurs, les prêtres de notre quartier. C'est très important comme concrétisation de ce que vient de dire Christian, de vivre cette communion spirituelle aussi par la prière dominicale ensemble.
Le livre retrace l'histoire de la mise en œuvre de la catholicité, parfois exagérée, et retrace aussi l'histoire du détournement de la notion de catholicité. Est-ce que vous voudriez, alors Catherine Choc-Lucas, en tant que catholique, nous donner un exemple de mise en œuvre ou de détournement, choix, et pasteur Bacuet, un exemple de mise en œuvre ou de détournement dans l'histoire de la notion de catholicité, selon vous?
Donc juste avant, je précise que le terme catholicité, c'était le point de départ du livre d'ailleurs, hein, est un terme qui est à la fois pour des protestants peu usité parce que il ressemble trop à l'Église catholique romaine, un terme qui peut donc être ambigu s'il parlait de ça, mais qui dans son sens profond ne parle pas de l'Église catholique romaine en particulier, mais de l'Église de Jésus-Christ, catholicité voulant dire à la fois universelle et profondément ancré dans l'Évangile et dans la relation à Dieu. Et donc cette catholicité, elle est dans les confessions de foi de l'Église ancienne, les quatre notes de l'Église dont on parlait, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et donc il s'agit de la vivre. Et l'histoire montre que voilà, parfois elle a été complètement déchirée. Donc pour un protestant, en tout cas, par exemple, le XVIe siècle est un moment de grande déchirure, qui ne correspond pas à la volonté des individus, mais qui de fait est un moment donné où la catholicité se divise, puisque ça fait plusieurs églises, quoi. Donc ça, c'est un moment douloureux, et qui est en même temps un moment porteur de l'identité de ce qu'on est aujourd'hui. Donc un moment de retissage de la catholicité, on pourrait dire. Je trouve, moi en particulier, que la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification, donc qui est un accord entre l'Église catholique, la Fédération luthérienne mondiale, en 1999, signé ensuite par la communion d'Églises réformées mondiale, par la communion anglicane, par la communion méthodiste. Voilà, il y a plusieurs grosses communions mondiales qui adhèrent à ce texte-là. Se disent, voilà, ce qui a été un des points de déchirure au XVIe siècle est un point sur lequel maintenant nous ne sommes plus au XVIe siècle. Il y a du chemin qui a été fait. On est d'accord sur l'essentiel, sur cette question, qui n'est pas rien, puisque c'est la question de la justification, donc du rapport à Dieu, et de comment Dieu nous sauve, comment Dieu nous unit, comment Dieu nous réconcilie. Voilà. On s'est déchiré, et maintenant on est d'accord là-dessus, voilà. C'est les deux aspects, on pourrait dire, de cette manière de vivre la catholicité.
Oui, je partage cette lecture de Christian de la déclaration commune sur la doctrine de la justification, qui exprime notre consensus sur les vérités fondamentales concernant la justification, la manière dont Dieu nous sauve. Et nous voyons que c'était grâce à un travail œcuménique approfondi depuis la fin des années 60 qui nous a mené à cette déclaration commune en 1999. Et que par la suite, comme Christian l'a dit, d'autres communions d'Église se sont retrouvées dans ce résultat.
Et je rajouterais qu'un des défis qui est devant nous, hein, c'est que cette déclaration conjointe sur la déclaration sur la justification a élaboré, on pourrait dire, un principe qu'on appelle le consensus différencié, c'est-à-dire si on est d'accord sur l'essentiel, sur les fondamentaux, alors il est légitime d'avoir des différences. Elles sont même enrichissantes. Ça a été sur la justification. De dire, voilà, on est d'accord sur la centralité de la justification dont Dieu est l'auteur en Jésus-Christ, par grâce. On est d'accord là-dessus. Les modalités après de diversité sont légitimes, quoi. L'enjeu maintenant, c'est de se dire, est-ce que ce consensus différencié pourrait aussi fonctionner sur la question de l'Église, des ministères, où nous avons pas toujours les mêmes conceptions des choses, une asymétrie parfois, une difficulté à se considérer peut-être parfois comme pleinement Église. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de consensus différencié là-dessus? Être d'accord sur l'essentiel. Nous sommes une seule Église, comme le dit la thèse du groupe des Dombes, bien qu'en communion imparfaite. Alors voilà, quels sont les éléments qui feraient que cette communion pourrait être plus parfaite, tout en restant chacun ce qu'il est, sa diversité, la richesse, etc.
Oui, le sens de la catholicité dans l'ouvrage C'est la note d'église à laquelle on reconnaît sa fidélité, son authenticité évangélique. C'est quelque chose de très très facile à comprendre pour des protestants. Et vous travaillez aussi avec ce livre du groupe des Dombes qui vient de sortir pour la catholicité des églises. Vous travaillez à la tenue d'un anniversaire. C'est l'anniversaire du Concile de Nicée en 2025. Qui sera l'occasion à nouveau d'affirmer une unité autour de ce symbole de foi.
Oui, nous l'espérons. Et d'ailleurs, il y a des événements œcuméniques importants prévus pour 2025 et notamment par le Conseil œcuménique des Églises, par sa commission foi et constitution, qui travaille et qui nous propose aussi une rencontre importante. On peut dire aussi qu'en 2025, les catholiques, les protestants, les anglicans, les orthodoxes, nous allons fêter Pâques le même jour, le même dimanche. Donc, nous exprimons aussi l'espoir que ça sera un grand moment d'unité visible dans la joie de la résurrection du Christ.
Alors, il y a un chapitre qui va passionner les lecteurs protestants, c'est sûr, c'est le chapitre 6 pour une catholicité réformée. Et vous écrivez dans le livre la catholicité réformée aux dimensions du monde, c'est pour dire l'indispensable dialectique de catholicité et de réforme. Ça veut dire que désormais l'Église catholique va intégrer la notion de réforme et les réformés vont intégrer la notion de catholicité.
Non, mais je veux dire, la catholicité a toujours été le patrimoine commun de toutes les églises. Il n'y a pas que l'église catholique romaine qui est catholique. Toutes les églises sont appelées à être dans la catholicité. Et la question de réforme, entendue non pas au sens structurel, mais au sens profond d'être renouvelée, de retrouver les sources, est aussi pour toutes les églises. Et donc, cette dialectique catholicité reçue et à vivre, et renouvellement, réforme que cela implique, ça traverse tout le temps toutes les dénominations. L'enjeu, c'est d'abord de ne pas oublier que les deux vont l'un avec l'autre, de ne pas s'approprier les uns la réforme, les autres la catholicité, mais de dire c'est le patrimoine commun, et de s'aider mutuellement à cheminer dans cette dialectique permanente, en fait, permanente, de renouvellement quotidien, de cette compréhension vécue de l'intérieur que Dieu nous appelle à être catholique dans le sens plénitude de foi, universalité à l'horizon du monde, de toute la création, comme un témoignage.
Oui, nous insistons aussi sur l'articulation entre réforme et conversion, parce que sans conversion personnelle et communautaire, il ne peut pas y avoir de réforme. Donc c'est important de se donner les moyens et d'avoir le désir de vivre cette conversion au Christ de manière permanente aussi.
Et au plan de l'engagement concret, vous écrivez également que la catholicité, au sens que vous venez de décrire, c'est aussi un prendre soin de l'autre. Et est-ce qu'on pourrait terminer sur quelques conseils pour prendre soin du frère qui n'est pas de notre Église?
C'est une dimension très importante, de fidélité à l'Évangile, d'être attentif aux plus fragiles, aux plus faibles, à celui qui exclut, à celui qui souffre. Et il y a tant et tant de souffrances, y compris dans les Églises et y compris causées par les Églises, que c'est un vrai défi de témoignage chrétien de prendre en compte cela. Pour que cette notion de réconciliation, de relèvement, de plénitude de vie soit en priorité destinée à ceux qui en ont le plus besoin. À l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église, si on peut s'exprimer comme ça, en tout cas dans l'humanité, et d'être attentif en particulier à ceux qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas voix en général, qui sont dominés. C'est un vrai enjeu de la foi chrétienne.
C'était Question de fond,
une série de regards protestants.